J'accompagnais hier à Lyon pour rendre visite au Primat des Gaules, mais surtout au tombeau des premiers apôtres de la Gaule, un groupe de chrétiens orientaux, notamment d'Irak, dont certains étaient dans la cathédrale de Bagdad lors de l'attentat d'il y a quelques années, qui ont perdu nombre de leurs proches là-bas, et dont d'autres viennent tout fraîchement de Mossoul. Je les confie par parenthèse à vos prières, bien sûr. Il était très émouvant pour le Primat des Gaules, comme pour le petit prêtre que je suis, de pouvoir pénétrer avec ces chrétiens persécutés d'aujourd'hui sur les lieux où furent autrefois achevés au nom du Christ les chrétiens persécutés d'hier. Nous avons pu ainsi rendre visite à Saint-Irénée, ou plutôt à son tombeau, et nous avons pu célébrer la messe sur le lieu même où fut emprisonné Saint Potin, le premier évêque de Lyon et partant un des tout premiers évêques de Gaule. Je peux vous dire que j'ai bien prié pour vous, non pas ad limina apostolorum, sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, mais sur le tombeau de ceux à qui nous devons d'être aujourd'hui dans une terre chrétienne, même si elle a du mal à le reconnaître, et si elle aimerait pouvoir effacer ce qui a pourtant été gravé avec le sang des martyrs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous touchons au terme de la grossesse de la Vierge Marie et nous fêterons dans quelques jours, je ne l'apprends à personne, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il vienne à nous sous les traits d'un petit enfant, c'est-à-dire d'un être sans défense qui évoque la douceur, ne doit pas nous laisser croire, comme c'est trop souvent le cas, je crois, qu'il se satisfera, cet enfant, d'une simple pensée émue devant la crèche. Jésus ne se satisfera pas, tout bébé qu'il viendra, d'un baiser furtif qui, il faut bien l'avouer, ne nous coûte pas grand-chose. Il nous faut au contraire prendre très au sérieux, je crois, ce nouveau-né, puisqu'il n'est pas seulement un bout de chou comme les autres, mais qu'il est le Fils de Dieu éternel venu dans la chair. Ayons bien présent à l'esprit qu'il a le droit à un accueil autrement plus digne qu'un simple hochet de bienvenue ou quelques caresses comme on le fait pour tout un chacun. Songeons que les mages eux-mêmes, qui n'avaient pas sur ce nourrisson les mêmes lumières que nous, parce qu'ils n'étaient pas encore chrétiens, ont immédiatement, ces grands rois, ces mages, déposé devant la mangeoire de l'enfant Jésus qui lui servait de berceau, les présents les plus insignes de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors me direz-vous, comment savoir concrètement ce qui touchera l'enfant Jésus? C'est la question que nous devons nous poser chaque année. Pour n'importe quel enfant, à quelques jours de cette fameuse nuit qui, pour lui, est féerique, bien sûr, encore plus que pour ses parents, parce qu'il croit encore peut-être au Père Noël, ou parce qu'il sait qu'il recevra de ses parents, de ses parrains et marraines, quelques cadeaux, ceux-ci, parents, parrains et marraines, se renseignent pour connaître ses goûts, pour savoir ce que l'enfant aimerait recevoir à Noël, pour être sûr de ne pas taper à côté. Eh bien, je crois que c'est de la même méthode qu'il faut user à l'égard de l'enfant Jésus. Il faut sonder les désirs de ce petit bout de chou. Or, qui mieux que Saint Jean-Baptiste, si près du cœur de son cousin, peut nous donner quelques indices? Nous venons de l'entendre dans l'Évangile, ce n'est rien moins qu'une sorte de liste de cadeaux que contient cet Évangile, les exhortations de Saint Jean-Baptiste, et dont Saint Jean-Baptiste se fait le porte-parole, la voix qui crie dans le désert. De nos jours, alors que chacun se livre à une époustouflante chasse aux cadeaux, et vous en êtes, et malheureusement je n'en suis pas assez peut-être de cette chasse aux cadeaux, afin que pas un de votre progéniture ne manque de quoi que ce soit, et soit presque parfois même, jusque chez les chrétiens, saturé de cadeaux, ce qui n'est jamais bon. On sait très bien que gâter un enfant, c'est comme à force de bonbons gâter les dents. Eh bien, alors que nous sommes sans cesse à la recherche du cadeau qui fera plaisir à ces petits rejetons, qui prête encore dans notre monde, et nous nous incluons dedans, qui prête encore avec suffisamment d'attention l'oreille à ces desiderata de l'enfant Jésus dont son cousin se fait le porte-parole? Le parallèle est saisissant entre notre époque post-moderne et celle du Baptiste. Il est toujours, il le dit lui-même, c'est son titre de gloire, parce qu'il est le nouveau prophète, il est la voix qui crie dans le désert. Désert de l'infidélité des Juifs, à l'époque de la venue de l'enfant Jésus dans la crèche, il y a 2000 ans, mais également désert spirituel de la société de consommation dans laquelle nous nous trouvons et dont nous sommes, nous aussi chrétiens, affectés. Mais bien, chers frères, ne sombrons pas dans la surdité générale à l'égard de ces exhortations du Baptiste. Jésus qui vient exige de nous des dispositions toutes particulières. Je ne fais que relire ce que nous dit Saint Jean-Baptiste dans l'évangile d'aujourd'hui. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé et toute montagne sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés. Alors toute chair verra le salut de Dieu. Certains pourraient s'effrayer devant les exigences du Baptiste, se dire que ce bonhomme hirsute, qu'on se représente toujours comme un chat maigre au désert, vêtu d'une petite peau de bête, mangeant des sauterelles, les yeux hagards et complètement exorbités, cet homme-là qui est too much, pourrait-on dire en langage contemporain, cet homme-là nous effraye parce que ce qu'il nous demande, ce n'est rien moins qu'une politique de grands travaux. Qui suis-je pour satisfaire à une politique de grands travaux? Je ne suis que le commun des mortels. Alors qu'on se rassure, il n'est pas besoin, je crois, de casser sa tirelire à l'approche de l'enfant Jésus, il n'est pas besoin de débourser même le moindre centime, il faut garder nos sous pour monnayer quelques cadeaux pour nos proches. Ce qu'il faut faire en matière de grands travaux, parce que Jésus va venir, est extrêmement exigeant, mais il s'agit de travaux intérieurs, bien sûr. Il ne s'agit pas de procrastiner, de repousser au lendemain, comme on le fait avec les plans quinquennaux, vous le savez bien, des hypothétiques travaux qui finalement n'auront jamais lieu parce qu'ils sont trop dispendieux et trop idéalistes. C'est aujourd'hui que ces travaux doivent commencer, s'ils n'ont pas déjà commencé depuis le début de l'Avent, dans votre cœur. Il faut absolument, mes frères, prendre très au sérieux ce que nous demande le Baptiste. Et si Jean-Baptiste, en même temps qu'il nous exhorte à quoi? Mais finalement, à changer notre âme, à changer notre cœur. Si Saint Jean-Baptiste nous y exhorte, en même temps, il accompagne cela, et c'est significatif, de la célébration, non pas encore d'un sacrement, mais d'un baptême de pénitence, dans lequel l'Église a toujours décelé une image, une annonce du sacrement de baptême, mais pas seulement, du sacrement de pénitence. Ce que je voulais dire, mais vous me voyez venir avec mes gros sabots depuis le début de cette homélie, c'est que pour préparer nos âmes adéquatement à la venue de l'enfant Jésus, il va falloir, mes frères, passer à la confession. Et j'en sais, peut-être pas ici, mais j'en sais parmi des catholiques très fervents, c'est du moins ce qui se dit, qui ne vont pas à confesse la veille de Noël parce que la confession annuelle pour faire ses Pâques suffirait. Eh bien, laissez-moi vous dire que tout cela est faux et que Saint Jean-Baptiste témoignera devant vous, à la face du Seigneur Jésus, que vous n'avez pas écouté mes conseils à la veille de Noël 2014, si vous n'êtes pas allé vous confesser avant de recevoir l'enfant Jésus, non pas seulement dans la mangeoire de la crèche, ce qui est déjà très beau, mais dans surtout le fond de votre âme et jusque dans vos tripes, en recevant Jésus Eucharistie, qui n'est finalement que la continuation de Jésus enfant. Eh bien, chers frères, renouvelez, je vous en supplie, renouvelez vos âmes en fréquentant ce sacrement avant Noël. Ne vous dites pas que vous irez dans la semaine de Noël, parce que vous n'irez jamais alors. Dites-vous bien que vous arriverez à la messe de minuit, ou pour ceux qui ne le peuvent pas, à la messe du jour, avec une âme disposée, une âme propre, comme on lave les linges avant d'en revêtir un petit enfant, un nourrisson, de peur qu'il n'attrape quelques maladies. Cette fréquentation du sacrement de pénitence, demandez au Saint-Esprit qu'elle soit elle aussi renouvelée. Parce que trop souvent, nous considérons que dans le sacrement de pénitence, nous allons être remis dans les clous. Et c'est déjà pas mal. Mais il ne s'agit pas de cela. Je crois qu'à Noël, nous avons cette grâce particulière de comprendre que ce qui se fait, au fond, dans le sacrement de pénitence, c'est la mise en disposition, la mise en capacité de pouvoir étreindre un enfant qui est le symbole même de pureté. Avouez que cette perspective des choses est autrement plus exaltante. Il ne s'agit pas simplement de dépoussiérer vaguement, d'écarter les ronces les plus épaisses et de se satisfaire d'une âme à moitié propre. Il s'agit de se dire que nous devons faire de notre âme un berceau autrement plus digne que celui de la crèche pour recevoir Jésus. En son temps, Jésus a été éconduit, du moins ses parents, par les habitants de Bethléem. Et nous nous scandalisons, et nous avons raison de cela. Alors ne faisons pas de même aujourd'hui en ne réservant au Seigneur Jésus qu'une place tout à fait dérisoire dans un petit coin de notre maison. Le Seigneur Jésus entend être dans notre salon et dans notre salle à manger et il entend dormir dans un lit à baldaquin. Alors préparons-lui tout cela, mes bien chers frères, demandons dès maintenant à la Vierge Marie la grâce de préparer une confession digne de ce nom. Enfin, une confession digne de ce nom, qui renouvelle profondément la grâce que nous avons reçue au baptême, la grâce de la sainteté. Pour vous y aider, je me tiendrai à votre disposition à partir de 10h le 24, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Il faut donc s'affoler pour se préparer. Le 24 décembre, 10h, la messe commençant à minuit, puisque c'est son nom, et les chants couvrant la confession de vos fautes, si c'est cela qui vous fait peur, à partir de 11h. Mais je vous rappelle que je ne suis pas le seul prêtre de l'Église catholique de la région. Vous pouvez prévoir un petit aller-retour ou un grand aller-retour à Paris, où toutes sortes de confessionnaux sont ouverts qui n'attendent que cela. Vous ferez alors la joie de l'enfant Jésus et de sa Sainte Mère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.